Monseigneur, à la fin du mois, une de vos compositions les plus récentes, La Passion selon Matthieu, va être jouée à Moscou et à Rome. Et à Moscou, en présence du patriarche Alexis II, à Rome, en présence du cardinal Walter Kasper. Alors, est-ce une façon originale de travailler au rapprochement entre l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique?
Alors, comme vous le savez, cette année, nous avons la date commune entre les catholiques et les orthodoxes pour la célébration des Pâques et de la Semaine Sainte. C'est peut-être une occasion pour manifester notre unité en foi. Notre unité dans la foi en Christ qui a souffert et qui est ressuscité pour le salut du monde. Donc, ce n'était pas mon idée de jouer le concert pas seulement à Moscou, mais aussi à Rome. C'était l'idée qui vient des musiciens. Mais je pensais que peut-être, voilà, c'est une bonne occasion. Pour faire connaître notre tradition orthodoxe aussi à travers la musique. Parce que normalement, en Occident, on sait quelque chose sur les icônes de l'Église orthodoxe. Parfois, on sait quelque chose sur notre théologie, sur les pères de l'Église. Il y a aussi des enregistrements de la musique sacrée, mais ici, dans mon œuvre, j'ai essayé de faire peut-être une synthèse de la tradition occidentale, de la tradition de Bach. Et de la tradition orthodoxe russe du chant liturgique. Ce n'est pas une musique pour le culte, c'est une musique pour le concert, mais quand même il y a ces deux influences, c'est-à-dire une influence occidentale et aussi une influence très forte du chant liturgique de l'Église orthodoxe. En plus, il y a peut-être certaines influences de quelques compositeurs du XXe siècle, comme par exemple Chostakovitch et Prokofiev.
D'après vous, y a-t-il un rapport entre la musique et la théologie, et quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon musicien et un bon théologien?
Voilà, pour être un bon musicien, il faut étudier la musique pendant au moins 15 ans. Pour être un bon théologien, il faut étudier la théologie pendant au moins 10 ans. C'est mes calculs qui sont fondés peut-être sur l'expérience. Voilà. Il y a bien sûr un lien entre la musique et la théologie, parce que la musique utilise une langue. Qui est assez proche à la langue de la théologie. Et en plus, à travers la musique, on peut disséminer quelques messages qui sont assez difficiles d'exprimer en utilisant la langue humaine. Donc, c'est un autre moyen. Et si vous pensez de la musique sacrée, c'est bien sûr une théologie. Si vous pensez par exemple de la musique de Bach, c'est vraiment une théologie très profonde. Donc il y a bien sûr un lien. Malheureusement, dans la musique, disons, du 19e siècle et surtout du 20e siècle, et spécialement dans la musique de l'avant-garde, ce lien est parfois complètement perdu. Mais aussi, on peut dire que vers la fin du XXe siècle, quelques compositeurs, comme par exemple Arvo Pärt, ou par exemple John Tavener en Angleterre, ou Henryk Górecki en Pologne. Il retrouve ces liens entre la théologie et la musique.
Monseigneur, vous êtes auteur de plus de 500 publications en russe et en langue occidentale, dont 30 livres. Vous êtes un grand connaisseur des pères de l'Église. Pouvez-vous nous dire quel serait l'intérêt pour l'homme d'aujourd'hui d'étudier les pères de l'Église? Et quelle est la méthode que vous avez appliquée pour, dans vos recherches et dans vos études?
Alors, très souvent en Occident, on pense que les pères de l'Église, c'est une lecture très académique. C'est une lecture pour les professeurs de la théologie, pour peut-être pour les étudiants. Et on ne lit pas les pères de l'Église comme on lit par exemple les romans. En Russie, au contraire, vous pouvez remarquez que même dans le métro, il y a quelques gens ordinaires qui lisent les livres des pères de l'Église. Donc vous pouvez voir une femme avec un volume d'Isaac le Syrien dans le train de métro à Moscou. Parce que pour beaucoup d'orthodoxes, les pères de l'Église c'est une lecture quotidienne, c'est un enseignement de la vie spirituelle et il y a beaucoup de choses chez les pères de l'Église qui sont très qui ont une rélevance à la vie contemporaine et à la vie spirituelle en général.
L'édition française de votre ouvrage sur Saint Grégoire de Nazianze, Le Chantre de la Lumière, Introduction à la spiritualité de Saint Grégoire de Nazianze, vient de paraître aux éditions du Cerf. Quels sont les traits particuliers de la vie et de l'enseignement de Saint Grégoire de Nazianze?
Pour la tradition orthodoxe, Saint Grégoire était le théologien. Il était le théologien par excellence. Dans la science religieuse d'aujourd'hui, quand on parle des pères de l'Église orientale, on parle plutôt d'Origène, de Grégoire de Nyssa, parfois de Maxime le Confesseur, et pas beaucoup de Saint Grégoire de Nazianze. Tandis que pour la tradition byzantine, c'était Saint Grégoire de Nazianze qui était l'auteur le plus cité après la Bible pendant 10 siècles. Je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans sa théologie parce que l'exactitude de sa pensée, de ses formulations, sont extraordinaires. Quelques phrases de Saint Grégoire, vous pouvez trouver dans les textes liturgiques de l'Église orthodoxe. Par exemple, quelques citations de ses homélies festales, vous trouvez dans les textes liturgiques. Saint Grégoire était un grand dogmaticien. Il a formuler la doctrine orthodoxe sur la Trinité. Il était vraiment un chantre de la Trinité et il a pris la Trinité dans une manière très personnelle. Plusieurs fois, il dit ma Trinité comme quelque chose de très, très proche, presque autobiographique. En plus, il était un grand maître de la vie spirituelle. Il était un grand écrivain, un grand poète. Donc, il y a beaucoup de choses en lui qui sont très, très, très intéressantes et très, très attirantes.
Quels sont, selon vous, pour l'homme d'aujourd'hui, justement, dans la personnalité, dans la vie, dans l'œuvre de Saint Grégoire, ce qui pourrait être très utile pour cheminer dans notre vie chrétienne.
C'est assez difficile à dire. Je pense que il était quelqu'un qui a écrit beaucoup sur lui-même. Et c'est très intéressant parce que ce que nous savons sur les saints et sur les pères de l'Église, c'est normalement quelque chose assez élevé, assez idéalisé. Tandis qu'ici, nous trouvons vraiment un homme qui écrit de lui-même, de ses émotions parfois, de ses espoirs et désespoirs, mais à travers ses écrits, nous trouvons un homme vraiment très remarquable.
Monseigneur, vous êtes également membre du comité de rédaction de la commission mixte pour le dialogue entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, qui s'est réunie le 1er et 2 mars à Rome pour mettre au point la partie du projet discuté à Belgrade, portant sur la question de l'autorité et de la catholicité. Quel est l'état de lieu de ce dialogue ?
Je voudrais tout d'abord remarquer que dans le comité de rédaction, c'est beaucoup plus facile que dans le comité mixte. Parce que quand vous êtes 60 personnes, c'est presque impossible de travailler sur un texte. C'est très très difficile et c'était assez difficile à Belgrade, spécialement vers la fin de notre rencontre. Tandis que quand vous êtes 6 personnes, c'est une autre chose parce que vous pouvez formuler, reformuler, vous pouvez discuter. Et c'était en fait un exercice très agréable à Rome quand nous étions 6 membres du comité de rédaction. Au niveau théologique, bien sûr, il y a quelques questions difficiles entre les catholiques et les orthodoxes, quelques questions que nous avons héritées du passé, comme par exemple la primauté de l'évêque de Rome, la primauté dans l'Église universelle en général, et c'est vraiment des questions très difficiles parce que pas seulement nous avons des accords entre les catholiques et les orthodoxes, mais aussi parmi les orthodoxes, il y a des opinions assez différentes sur le sujet de la primauté dans l'Église universelle. Donc, je ne vois pas comment nous pouvons trouver une solution de cette question très difficile entre nous les orthodoxes et entre les orthodoxes et les catholiques. Mais avec la grâce de Dieu, on peut au moins essayer de trouver quelques formules pour cette question.
Monseigneur, vous avez également participé au séminaire international organisé sous le patronage de l'UNESCO, qui vient de terminer aujourd'hui. Séminaire intitulé « Dialogue des cultures et des civilisations, le pont entre les droits de l'homme et les principes éthiques ». La question que je voulais vous poser, aujourd'hui en Occident, dans les droits de l'homme et les principes éthiques, l'éthique elle-même, a acquis une autonomie par rapport à la révélation. Dans quel sens l'Église orthodoxe en général, l'Église russe en particulier, peut rentrer et comment elle doit rentrer dans ce dialogue avec, si vous voulez, ces postulats, ces principes d'éthique autonome?
Très souvent, on pense que l'idée des droits de l'homme est quelque chose de sacré. On ne peut pas la toucher et il n'y a rien de discuté. En fait, on peut remarquer que parfois ce concept est utilisé pour
Justifier.
cette idée est utilisée pour justifier quelques actes qui, dans la tradition chrétienne, dans la tradition orthodoxe, sont considérés comme inacceptables. Par exemple, le soi-disant mariage homosexuel ou l'adoption par les couples homosexuels, l'adoption des enfants. Entre la société séculière et les églises, il faut un dialogue sur ces sujets. Je ne peux pas dire que l'éthique est quelque chose d'autonome d'un système de pensée en général. Parce que, par exemple, pour un croyant, toute éthique est fondée sur la foi. C'est-à-dire, éthique, c'est une partie d'un système de valeurs qui est fondée sur la foi, sur la religion. Et donc, à tous les points où nous ne sommes pas d'accord avec l'éthique séculière, c'est exactement les points qui sont enracinés dans cette distinction entre l'éthique autonome et l'éthique qui est fondée sur les valeurs religieuses.
Que peut apporter l'orthodoxie à l'Occident?
L'orthodoxie est déjà une partie intégrante de l'Occident. On ne peut pas dire que l'orthodoxie est quelque chose d'étrange, quelque chose d'importé. C'est une partie intégrante de l'Occident, de l'Europe, spécialement maintenant avec l'entrée de Bulgarie et de Roumanie dans l'Union européenne. C'est une partie d'identité européenne. L'orthodoxie, c'est une vérité théologique, une vérité religieuse. En plus, on peut dire que l'orthodoxie a une tradition très riche de la vie spirituelle, de l'art ecclésiastique, de l'icône, du chant liturgique, de la théologie. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de l'Église orthodoxe.